Chapitre 4e. Béchou, policier. Denris empoigna chacune des deux jeunes femmes au-dessous du coude et les redressa. Du calme, nom d'un chien. Rien à faire si vous flanchez comme ça à la première occasion. Le vieux maître d'hôtel cheminait un peu en avant et à l'écart. Van Houben, qui avait pénétré d'autorité dans la cour ainsi que Béchou, souffla à l'oreille de celui-ci. « Hein ? J'ai eu du flair. Heureusement que nous sommes là. Attention au diamant. Ne quittez pas Denris de l'œil. » On traversa la cour aux larges pavés inégaux. Les murs des autres hôtels voisins, tout nus, sans fenêtres, la bordaient à droite et à gauche. Au fond, la demeure, animée de hautes croisées, avait grande allure. On monta les 6 marches. Régine Aubry bégaya. « Si le vestibule a des dalles noires et blanches, je me trouve mal. »« Crebleu !» protesta Denris. « Le vestibule avait des dalles noires et blanches. » Mais Denris pinça si rudement le bras de ses deux compagnes qu'elles tinrent bon sur leurs jambes qui vacillaient. « Saperlotte ! » bougonna-t-il en riant. « Nous n'arrivons à rien. »« Le tapis de l'escalier, » marmotta Régine. « C'est le même. »« C'est le même, » gémit Arlette. « Et la même rampe. »« Eh bien, et puis après ?» fit Denris. « Mais si nous reconnaissons le salon ?»« L'essentiel est d'y aller. » Et je ne suppose pas que le comte, s'il est coupable, ait grande envie de nous y conduire. Alors ? Alors il faut l'y forcer. Voyons, Arlette, du courage, et pas une syllabe, quoi qu'il advienne. À ce moment, le comte Adrien de Mélamar vint au-devant de ses visiteurs et les introduisit dans une pièce du rez-de-chaussée garnée de jolis meubles d'acajou du temps de Louis XVI et qui devait lui servir de cabinet de travail. C'était un homme à cheveux grisonnants, de 45 ans peut-être, bien d'aplomb, de visage plutôt désagréable et peu sympathique. Il avait dans le regard une expression un peu vague, distraite par moments et qui déconcertait. Il salua Régine, tressaillit légèrement à la vue d'Arlette et tout de suite se montra courtois, mais d'une manière plutôt superficielle et par habitude de gentilhomme. Jean Denry se présenta et présenta ses compagnes, mais il n'ajouta pas un mot pour Béchou ni pour Van Houben. Celui-ci s'inclina un peu plus qu'il n'eût fallu et dit en affectant des airs gracieux « Van Houben, le lapidaire, le Van Houben des diamants volés, à l'opéra, mon collaborateur, M. Béchou. » Le comte, bien qu'assez étonné de cet assemblage de visiteurs, ne fit aucune remarque. Il salua et attendit. Van Houben, les diamants de l'opéra, Béchou, on eût pu croire que tout cela n'avait aucune signification pour lui. Alors Denris, tout à fait maître de lui, sans aucun embarras, prit la parole. « Monsieur, le hasard fait bien les choses. Il se trouve en effet qu'aujourd'hui même où je viens vous rendre un petit service, j'ai découvert en feuilletant un ancien répertoire des personnes de qualité que nous étions quelque peu cousins. Mon arrière-grand-mère maternelle, née de Sourdin, avait épousé un Mélamar, de la branche cadette des Mélamar Saint-Onge. La physionomie du comte s'éclaira. Visiblement, ces questions de généalogie l'intéressaient, et il poursuivit avec Jean Denris un dialogue serré à la suite de quoi leur parenté fut solidement établie. Arlette et Régine se remettaient peu à peu. Van Houben dit tout bas à Béchou. « Alors quoi ? Il s'est allié au Mélamar ?»« Comme moi au pape, » grogna Béchou. « En ce cas, il a un rude culot. C'est le début. » Cependant, Denris repartait de plus en plus désinvolte. « Mais j'abuse de votre patience, monsieur et cher cousin, et si vous le permettez, je vous dirai tout de suite en quoi le hasard m'a servi. Je vous en prie, monsieur. » Le hasard m'a servi une première fois en me mettant sous les yeux, dans le métro un matin, votre annonce du journal. J'avoue qu'elle me frappa sur le champ, par la composition même et l'insignifiance des objets que vous réclamiez. Un bout de ruban bleu, une entrée de serrure, une bobèche, le pommeau d'une pincette, ce sont des choses qui ne méritent peut-être pas un communiqué aux journaux. Quelques minutes après, d'ailleurs, je n'y pensais plus et sans doute n'y aurais-je jamais plus songé si... » Après un instant d'habile suspension, Jean continua. « Vous connaissez évidemment, mon cher cousin, le marché aux puces, cette foire pittoresque où s'accumulent les objets les plus hétéroclites, dans le désordre le plus amusant. Pour ma part, j'y ai trouvé souvent de bien jolies choses et jamais, en tout cas, je n'ai regretté les promenades que j'y ai faites. Ce matin-là, par exemple, je dénichais un bénitier de faïence en vieux Rouen, cassé, rapiécé et raccommodé, mais d'un style charmant. Une soupière, un dé à coudre, bref, une série d'aubaines, et tout à coup, sur le pavé du trottoir, au milieu d'un tas d'ustensiles sans valeur jetés là en pagaille, voilà que mon regard accroche un bout de ruban. Oui, mon cher cousin, un bout de ruban de sonnette, en soie bleue, usé, de couleur éteinte, et à côté, une entrée de serrure, une bobèche d'argent. L'attitude de M. de Mélamar s'était soudain transformée. Vivement, avec une agitation extrême, il s'écria « Ces objets, est-ce possible? Exactement ce que je réclame? Mais où m'adresser, monsieur? Comment les avoir ?»« En me les demandant, tout simplement. »« Hein? Vous les avez achetés? Quel prix? Je vous rembourserai le double, le triple, mais je tiens... » Denris l'apaisa. « Laissez-moi vous les offrir, mon cher cousin. J'ai eu le tout pour 13,50 francs. Ils sont chez vous? Ils sont ici même, dans ma poche. Je viens de passer les prendre chez moi. » Le comte Adrien tendit la main sans vergogne. « Une seconde !» dit Jean Denris gaiement. « Je désire une petite récompense. Oh, bien minime. Mais je suis curieux, excessivement curieux de nature. Et je voudrais voir l'emplacement qu'occupaient ces objets, et aussi pourquoi vous y tenez tant. » Le comte hésita. La demande était indiscrète et prouvait quelque méfiance, mais combien cette hésitation de sa part était significative. À la fin, cependant, il répliqua « C'est facile, monsieur. Veuillez me suivre au premier étage, dans le salon. » Denris jeta un coup d'œil aux deux jeunes femmes pour leur dire « Vous voyez, on arrive toujours à ce qu'on veut. » Mais, les ayant observées, il remarqua le bouleversement de leurs traits. Le salon, pour elles, c'était le lieu même de l'épreuve qu'elles avaient subie. Y retourner, c'était acquérir la redoutable certitude. Von Huben également avait compris. Une nouvelle étape allait être franchie. Le brigadier Béchoux, de son côté, s'animait. Il emboîta le pas au comte. « Excusez-moi, » dit celui-ci, « je vous montre le chemin. » Ils sortirent et traversèrent le vestibule d'allée. L'écho sonore des pas remplit la cage de l'escalier. En montant, Régine comptait les marches. Il y en avait 25, exactement le même nombre. Elle eut encore une défaillance plus sérieuse et chancela. Tout le monde s'empressa autour d'elle. Que se passait-il? Était-elle souffrante? « Non, » chuchota Régine, sans ouvrir les yeux. « Non, un simple étourdissement. Pardonnez-moi. »« Il faut vous asseoir, madame, » dit le comte en poussant la porte du salon. Von Huben et Denris l'installèrent sur un canapé. Mais quand Arlette entra et qu'elle vit la pièce, elle poussa un cri, tournoya et tomba évanouie sur un fauteuil. Alors ce fut un affolement, un tumulte quelque peu comique. On tournait à droite et à gauche au hasard. Le comte appelait « Gilberte, Gertrude, dites, des sels, de l'éther, François, appelez Gertrude !» François arriva le premier. C'était le concierge maître d'hôtel et sans doute le seul domestique avec sa femme Gertrude, aussi vieille que lui et plus ridée encore. Elle le suivit de près. Puis entra la personne que le comte nommait Gilberte et à qui il jeta vivement. « Ma sœur, voici deux jeunes dames qui se trouvent indisposées. » Gilberte de Mélamar, divorcée, elle avait repris son nom de famille, était grande, brune, altière, avec un visage jeune et régulier, mais avec quelque chose d'un peu démodé dans la mise et dans la tournure. Elle avait plus de douceur que son frère. Ses yeux noirs, très beaux, montraient une expression grave. Denris nota qu'elle portait des bandes de velours noir à sa robe prune. Bien que la scène dût lui sembler inexplicable, elle garda tout son sang-froid. Ayant bassiné d'eau de Cologne le front d'Arlette, elle chargea Gertrude de la soigner, puis s'approcha de Régine autour de laquelle Von Huben s'évertuait vivement. Jean Denris écarta Von Huben afin d'observer de près l'événement qu'il prévoyait. Gilberte de Mélamar s'inclina et dit « Et vous, madame, ce ne doit pas être bien sérieux, n'est-ce pas? Qu'éprouvez-vous ? » Elle fit sentir un flacon de sel à Régine. Celle-ci souleva ses paupières, regarda cette dame, regarda sa robe prune à bandes de velours noir, puis ses mains, et se dressa tout à coup en criant, avec une terreur indicible, « La bague, les trois perles, ne me touchez pas. Vous êtes la femme de l'autre nuit, oui, c'est vous. Je reconnais votre bague, je reconnais votre main, et aussi ce salon, ces meubles en soie bleue, le parquet, la cheminée, la tapisserie, le tabouret d'acajou. Ah, laissez-moi, ne me touchez pas. » Elle balbutia encore quelques mots indistincts, chancela comme la première fois et de nouveau s'évanouit. Et Arlette, qui s'éveillait à son tour, Reconnaissant les souliers pointus aperçus dans l'auto et entendant sonner la pendule au tintement aigrelet, gémissais. « Ah, cette sonnerie, c'est la même, et c'est la même femme, quelle horreur !» La stupeur fut telle que personne ne bougea. La scène prenait une allure de vaudeville, qui eût suscité le rire d'un témoin indifférent, et de fait, les lèvres minces de Jean d'Henry se plissèrent légèrement, il s'amusait. Von Huben interrogeait tour à tour d'Henry et Béchou pour savoir que penser. Béchou épiait attentivement le frère et la sœur qui demeuraient interdits. « Que signifient ces paroles ?» murmura le comte. « De quel bac s'agit-il ? Je suppose que cette dame a le délire ?» Alors d'Henry s'intervint, et il le fit aussi allègrement que s'il n'attachait tous ces événements aucune importance. « Mon cher cousin, vous avez dit le mot juste. L'émoi de mes deux amis a quelque rapport avec ces sortes de fièvres injustifiées qui ne vont pas sans un soupçon de délire. Cela fait partie des explications que je vous dois et que je vous ai annoncées en venant ici. Voulez-vous m'accorder quelques nouveaux délais et régler tout de suite cette petite question des objets recueillis par moi ?» Le comte Adrien ne répondit pas sur le champ. Il montrait un embarras mêlé d'une inquiétude visible, murmurant des phrases inachevées. « À quoi cela rime-t-il ? Et que devons-nous supposer ? J'imagine difficilement. » Il prit sa sœur à part, et ils causèrent tous deux avec animation. Mais Jean s'avança vers lui, tenant entre le pouce et l'index une petite plaque de cuivre ouvragé représentant de papillons aux ailes déployées. « Voici l'entrée de serrure, mon cher cousin. Je suppose que c'est bien celle qui manque à l'un des tiroirs de ce secrétaire. Elle est identique aux deux autres. » De lui-même, il appliqua le morceau de cuivre qui retrouva sa place et dont les pointes de la face interne s'installèrent tout naturellement dans leurs anciens trous. Ensuite de quoi, Jean d'Henry tira de sa poche un ruban bleu auquel s'accrochait une poignée de sonnettes également en cuivre, et comme on apercevait le long de la cheminée un autre ruban qui pendait, déchiqueté par le bas et de même couleur, il s'approcha. Les deux extrémités coïncidaient exactement. « Tout va bien, » dit-il. « Et cette bobèche, mon cher cousin, où la mettons-nous »«
À cette girandole, monsieur, »
dit le comte Adrien d'un ton bourreux. « Il y en avait six. » Comme vous voyez, il n'y en a plus que cinq, dont celle-ci ne diffère en rien. Reste le pommeau de ses pincettes qui fut dévissé, comme vous pouvez vous en assurer.
« Le voici, » dit Jean, lequel, comme un prestidigitateur, continuait de tout extraire de sa poche inépuisable. « Et maintenant, mon cher cousin, vous voudrez bien tenir votre promesse, n'est-ce pas, et nous dire pourquoi ces babioles vous sont si chères et pourquoi elles n'étaient pas à leur place habituelle ?»
Ces diverses opérations avaient donné au comte le loisir de se reprendre, et il semblait avoir oublié les imprécations de Régine et les gémissements d'Arlette, car il répondit en termes brefs, et comme pour se débarrasser de l'intrus qui lui avait soutiré cette promesse inopportune, « Je suis attaché à tout ce qui me fut légué par les miens, et les moindres babioles, comme vous dites, nous sont, à ma sœur et moi, aussi sacrés que les objets les plus rares. »
L'explication valait ce qu'elle valait. Jean d'Henry reprit « Que vous y teniez, mon cher cousin, c'est fort légitime, et je sais trop par moi-même comment on s'attache aux souvenirs de famille. Mais pourquoi ont-elles disparu ?»«
Je l'ignore, » dit le comte. « Un matin, j'ai constaté que cette bobèche manquait. J'ai fait une inspection minutieuse avec ma sœur. L'entrée de serrure manquait aussi, et une partie de ce ruban, et le pommeau de ses pincettes.
Un vol, alors ?
Un vol sûrement, effectué d'un seul coup.
« Comment ?
On pouvait prendre ces bonbonnières, ces miniatures, cette pendule, cette argenterie, toutes choses de valeur, et l'on a choisi ce qu'il y avait de plus insignifiant.
Pourquoi ?
Je l'ignore, monsieur. » Le comte répéta ces mots d'un ton sec. Ses questions l'excédaient, et la visite, pour lui, n'avait plus de but.
« Peut-être, cependant, fit Jean, désirez-vous, mon cher cousin, que je vous explique les raisons pour lesquelles je me suis permis d'amener ici mes deux amis et les raisons de l'émotion manifestée par elles ?»«
Non, » déclara nettement le comte Adrien, « cela ne me concerne pas. » Il avait hâte d'en finir, et il esquissa un mouvement vers la porte. Mais il trouva en face de lui Béchou qui s'était avancé et qui lui dit gravement « Cela vous concerne, monsieur le comte. Certaines questions doivent être éclaircies sur l'heure, et elles le seront. » L'intervention de Béchou était impérieuse. Le brigadier barrait la porte de ses longs bras étendus. « Mais qui êtes-vous, monsieur ?» s'écria le comte avec hauteur.
« Le brigadier Béchoux, des services de la sûreté. »
Monsieur de Mellemare bondit sur place.
« Un policier, vous ? De quel droit vous êtes-vous introduit chez moi ? Un policier ici, dans l'hôtel Mellemare ?»«
Je vous étais présenté sous mon nom de Béchoux, dès mon arrivée, monsieur le comte. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu m'oblige à faire précéder ce nom de mon grade de brigadier. »«
Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu ?» balbutia monsieur de Mellemare, dont le visage se décomposait de plus en plus.
« Mais en vérité, monsieur, je ne vous autorise pas. »«
Ça, c'est le cadet de mes soucis, » gronda Béchoux, qui ne se piquait pas de politesse.
Le comte revint vers sa sœur. Ils eurent de nouveau un dialogue véhément et rapide. Gilberte de Mellemare montrait autant d'agitation que son frère. Debout, se soutenant l'un l'autre, ils attendaient dans l'attitude combative de gens qui sentent l'importance de l'attaque.
Voilà Béchoux déchaîné, dit tout bas Van Hoven à Jean.
Oui, je le voyais qui s'excitait de plus en plus.
Je connais mon bonhomme. Il commence par regimber et par se boucher les yeux, et puis tout à coup il éclate.
Arlette et Régine s'étaient élevées aussi et se tenaient en arrière sous la protection de Jean. Et Béchoux prononça.
Ce ne sera pas long. D'ailleurs, monsieur le comte, quelques questions auxquelles je vous prie de répondre sans détour. À quelle heure êtes-vous sorti de chez vous hier ? Et madame de Mellemare ?
Le comte haussa les épaules et ne répliqua pas. Sa sœur, plus souple, jugea préférable de répondre.
« Nous sommes sortis, mon frère et moi, à 2 heures et rentrés à 4 heures et demie pour prendre le thé. Et après ?
Nous n'avons pas bougé. Nous ne sortons jamais le soir. »
« Cela, c'est une autre question, » dit Béchoux avec ironie. « Ce que je voudrais savoir, c'est l'emploi de votre temps ici, dans cette pièce, hier, entre 8 heures et minuit. »
Monsieur de Mellemare frappa du pied avec rage et enjoignit à sa sœur de se taire. Béchoux comprit qu'aucune force au monde ne les obligera à parler, et cela le mit dans une telle fureur qu'emporté par sa conviction, il lâcha toute l'accusation sans plus interroger d'une voix contenue d'abord, puis âpre, dure, frémissante.
« Monsieur le comte, vous n'étiez pas chez vous hier, dans l'après-midi, ni madame votre sœur, mais devant le numéro 3 bis de la rue du Mont-Tabor. En tant que docteur Bricou, vous attendiez une jeune fille que vous avez prise au piège de votre automobile, dont votre sœur a enveloppé la tête d'une couverture et que vous avez amenée ici dans votre hôtel. Cette jeune fille s'est enfuie. Vous avez couru après, sans pouvoir la rattraper dans les rues. La voici. »
Le comte martela, les lèvres crispées, les poings serrés.
« Vous êtes fou ! Vous êtes fou ! Qu'est-ce que tous ces fous-là ?
Je ne suis pas fou !»
proféra le policier qui glissait peu à peu au mélodrame et à une grandiloquence dont les termes pompeux et vulgaires réjouissaient Denris.
« Je ne dis que l'exacte vérité. Des preuves, j'en ai plein les poches. Mademoiselle Arlette Mazol, que vous connaissez, que vous attendiez à la porte du couturier Chernitz, peut nous servir de témoin. Elle est montée sur votre cheminée. Elle s'est étendue sur cette bibliothèque. Elle a renversé cette potiche. Elle a ouvert cette fenêtre. Elle a traversé ce jardin. Elle le jure sur la tête de sa mère. N'est-ce pas, Arlette Mazol, que vous le jurez sur la tête de votre chère mère ?»
Denris dit à l'oreille de Van Hoven.
« Mais il perd la boule. De quel droit fait-il le juge d'instruction ? Et quel juge pitoyable ? Il n'y a que lui qui parle. » »«
Quand je dis qu'il parle ?»
Béchoux hurlait, en effet, face à face avec le comte, dont les yeux hagards exprimaient un désarroi sans borne. « Ce n'est pas tout, monsieur, ce n'est pas tout. Ce n'est même rien. Il y a autre chose. Cette dame. »
Il désignait Régine Aubry.
« Vous la connaissez, hein ? C'est elle qui a été enlevée un soir à l'opéra. Et par qui ? Hein ? Qui est-ce qui l'a conduite ici, dans ce salon, dont elle reconnaît les meubles, n'est-ce pas, madame ? Ces fauteuils, ce tabouret, ce parquet. Hein, monsieur ? Qui l'a amené ici ? Qui l'a dépouillé du corselet de diamants ? Le comte de Mellemare, n'est-ce pas ? Et sa sœur Gilberte de Mellemare. La preuve, cette bague aux 3 perles. Mais les preuves, il y en a trop. Le parquet décidera, monsieur, et mes chefs. »
Il n'acheva pas. Le comte de Mellemare, hors de lui, l'avait serré à la gorge et trépigné en bégayant des insultes. Bégout se dégagea, lui montra le poing et recommença encore son réquisitoire insolite. Entraîné par l'évidence des faits, par le rôle qu'il jouait dans l'affaire et surtout par l'importance que lui donnerait ce rôle auprès de ses chefs et auprès du public, il avait perdu la boule, comme le disait Denris. Il le sentit si bien qu'il s'arrêta net, essuya son front perlé de sueur et soudain, maître de lui,
très digne, articula
« Je dépasse mes droits, je l'avoue. Ceci n'est pas de ma compétence et je téléphone à la préfecture de police. Vous voudrez bien attendre les instructions que je vais recevoir. »
Le comte s'effondra et prit sa tête entre ses mains, comme un homme qui ne tente même plus de se défendre. Mais Gilberte de Mélamar barra le passage au brigadier. Elle suffoquait.
« La police ? La police va venir ici, dans cet hôtel ? Mais non, voyons, ce n'est pas possible. Il y a de ces événements. Vous n'avez pas le droit. C'est un crime. »«
Je suis désolé, madame, » dit Béchoux, que sa victoire rendait subitement polie. Mais elle se cramponnait au bras du policier et l'implorait.
« Je vous en supplie, monsieur. Mon frère et moi, nous sommes victimes d'un malentendu affreux. Mon frère est incapable d'une mauvaise action. Je vous en prie. »
Béchoux fut inflexible. Il avait vu l'appareil dans l'antichambre. Il y alla, téléphona et revint.
Les choses ne traînèrent pas.
Au bout d'une demi-heure, durant laquelle Béchoux, de plus en plus excité, pérora devant Denris et Van Houben, tandis que Régine et Arlette considérait le frère et la sœur avec un effroi mêlé de compassion, le chef de la sûreté arriva, accompagné d'agents, et bientôt suivi d'un juge d'instruction, d'un greffier et du procureur. La communication de Béchoux avait produit de l'effet. Une enquête sommaire eut lieu. On interrogea le couple de vieux domestiques. Ils habitaient une aile à l'écart et ne s'occupaient que de leur service. Leur service fini, ils sortiraient dans leur chambre ou dans la cuisine qui donnait sur la façade du jardin. Mais la déposition des deux jeunes femmes fut accablante, et il leur suffit pour cela d'évoquer simplement leurs souvenirs. Arlette, en particulier, montra le chemin qu'elle avait pris pour s'enfuir et décrivit, avant même de les revoir, le jardin, les arbustes, le mur, le pavillon isolé, la porte, la rue déserte, donnant sur une rue plus animée. Aucun doute ne pouvait subsister. D'ailleurs, il se produisit une découverte dont Béchoux eut tout l'honneur et qui ne laissait pas la moindre place pour la plus petite hésitation. En inspectant d'un coup d'œil l'intérieur de la bibliothèque, Béchoux remarqua une série de vieux in-quarto dans leur vieille reliure. Ils lui parurent suspects. Un à un, il les examina. Ils étaient vides de pages et formaient des boîtes. L'un d'eux contenait une étoffe d'argent, un autre le corselet. Régine s'exclama aussitôt.
« Ma tunique, mon corselet !»« Et les diamants n'y sont plus !»
vociféra Van Houben, aussi bouleversé que si on l'avait volé une seconde fois.
« Mes diamants, qu'est-ce que vous en avez fait, monsieur ? Ah, mais vous rendrez gorge !»
Le comte de Mélamar avait assisté à cette scène impassible, mais avec une expression étrange. Lorsque le juge se retourna vers lui en montrant la tunique et le corselet, dont les diamants avaient été arrachés, il hocha la tête et sa bouche se contracta pour un sourire affreux.
« Ma sœur n'est donc pas là ? »
chuchota-t-il en regardant autour de lui. La vieille bonne répondit
« Je crois que madame est dans sa chambre. Vous lui direz adieu de ma part et lui conseillerez de suivre mon exemple. »
Et vivement, il tira un revolver de sa poche, le dirigea vers sa tempe et appuya sur la détente.
D'un geste brusque, Denris, qui veillait, lui poussa le coude. La balle déviée alla briser une des vitres de la fenêtre.
Des agents se jetèrent sur monsieur de Mélamar. Le juge d'instruction prononça
« Vous êtes sous mandat d'arrêt, monsieur. Qu'on emmène aussi, madame de Mélamar ?»
Mais quand on chercha la comtesse, on ne la trouva ni dans sa chambre ni dans son boudoir. On fouilla tout l'hôtel. Par où s'était-elle enfuie ? Et avec quelle complicité ? Denris, très inquiet, redoutant un suicide, dirigeait les investigations. Elles furent vaines.
« N'importe, »
murmura Béchoux. « Vous n'êtes pas loin de recueillir vos diamants, monsieur Van Houben. Notre situation est bonne et j'ai bien travaillé. »
« Jean Denris aussi, avouons-le, » observa Van Houben.
« Il a manqué de das à mi-chemin, » répliqua Béchoux. « Mon accusation a tout déclenché. » Quelques heures plus tard, Van Houben rentrait dans son magnifique appartement du boulevard Haussmann. Il avait dîné au restaurant avec le brigadier Béchoux et le ramenait pour parler encore de l'affaire qui les préoccupait autant l'un que l'autre.
« Tiens, tiens, » dit-il après un moment de conversation. On croirait entendre du bruit au bout de l'appartement. Les domestiques ne couchent pourtant pas de ce côté.
Il suivit ainsi que Béchoux un long corridor à l'extrémité duquel se trouvait un petit logement ayant sa sortie particulière sur le grand escalier.
« Deux chambres tout à fait séparées, » dit-il, « où je reçois quelquefois des amis. »
Béchoux prêta l'oreille. « En effet, il y a du monde.
C'est curieux, personne à la clé.
Revolver au poing, ils entrèrent d'un bond et tout de suite, Von Homen poussa un cri « Nom de Dieu !» auquel Béchou répondit par un autre cri « Cré bon sang !» À genoux, devant une femme étendue sur un canapé, Jean Denris lui embrassait légèrement, selon sa méthode apaisante, le haut du front et les cheveux. Ils s'avancèrent et reconnurent Gilberte de Mélamar, les yeux clos, très pâles et la poitrine haletante. Denris, furieux, se planta devant les nouveaux venus. « Encore vous, mais sacrebleu! On ne peut donc pas être tranquille. Qu'est-ce que vous venez fiche là, ici, tous les deux ?»«
Comment? Ce que nous venons faire ?» s'écria Van Houben. « Mais je suis chez moi, ici !»
Et Béchou, indigné, proférait.
« Eh bien, mais tu as de l'aplomb. Alors c'est toi qui as fait évader la comtesse de l'hôtel ?»
Denris, subitement apaisé, pirouetta sur lui-même. « On ne peut rien te cacher, Béchou.
Mon Dieu, oui, c'est moi. Tu as osé ?»«
Dame, cher ami, tu avais oublié de mettre des agents dans le jardin, alors je l'ai fait filer par là, en lui donnant rendez-vous dans une rue voisine où elle prit une auto. La cérémonie de l'instruction terminée, je l'y retrouvais. Et depuis ce temps, après l'avoir transportée ici, je la soigne.
« Mais qui vous a fait entrer, sapristi ?» dit Van Houben. « Il fallait la clé de ce logement. »«
Pas besoin. Avec des pinces, j'ouvre toutes les portes en rigolant. Voilà plusieurs fois que je visite ainsi votre demeure, cher ami. Et j'ai pensé qu'il n'y avait pas de meilleure retraite pour Madame de Mélamar que ce coin isolé. Qui donc imaginerait que Van Houben ait pu recueillir la comtesse de Mélamar ? Personne, pas même Béchou. Elle va vivre là, très tranquillement, sous votre protection, jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie. » La femme de chambre qui la servira croira que c'est votre nouvelle amie, puisque Régine est perdue pour vous.
« Je l'arrête, je préviens la police !»
s'écria Béchou. Denris éclata de rire.
« Ah ça, c'est drôle, voyons. Tu sais aussi bien que moi que tu n'y toucheras pas, elle est sacrée. Tu crois ça, toi ? Parbleu, puisque je la protège !»
Béchou était exaspéré.
« Alors tu protèges une voleuse.
Une voleuse, qu'est-ce que tu en sais ?
Comment ? La sœur de l'homme que tu as fait arrêter ?
Calomnie odieuse, ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter, c'est toi, Béchou.
Sur ton indication, et parce qu'il est coupable, sans contestation possible.
Qu'en sais-tu ?
Hein ? Voilà que tu n'es plus certain ?
Ma foi, non, dit Jean Denris d'un ton de persiflage horripilant.
Il y a dans tout cela des choses rudement déconcertantes. Un voleur, ce noble personnage. Une voleuse, cette dame si fière dont je n'ose guère embrasser que les cheveux. « Vrai, Béchou, je me demande si tu n'as pas été un peu vite, et si tu ne t'es pas jeté imprudemment dans une bien mauvaise affaire. Quelle responsabilité, Béchou !»
Béchou écoutait, vacillant et blême. Van Houben, le cœur étreint par l'inquiétude, sentait ses diamants se perdre de nouveau dans l'ombre. Jean Denris, agenouillé respectueusement devant la comtesse, chuchotait.
« Vous n'êtes pas coupable, n'est-ce pas ?» « Il est inadmissible qu'une femme comme vous ait volé. Promettez-moi de me dire la vérité au sujet de votre frère et de vous. »